Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Carcassonne, par exemple, sur 104.7 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec Anne Vermèche, vigneronne au domaine Le Plan Vermèche dans la Vallée du Rhône. Le Vino Quiz pour gagner un coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit Loire et un coffret Divine en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Fabien Imbert, journaliste indépendant, auteur et conférencier. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David.
Bonjour aussi.
Bien sûr, bienvenue, ben content oui. De vous retrouver depuis hier. Quoi.
Merci.
Vous m'avez beaucoup manqué David. Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Christian Beyer, propriétaire du domaine Émile Beyer. Bonjour Christian.
Bonjour.
Alors si je vous dis 1580, vous pensez à quoi, vous pensez à qui?
Ah ben, je pense forcément à Martin Beyer, notre précurseur, celui qui a ouvert la lignée des Beyer à Aiguisheim, puisque j'en suis la 14e génération.
14e génération.
Ça, alors ça, c'est ça me fascine, la longévité des vignerons sur les mêmes terres en Alsace. Or que ce pays a été combattu, échangé, bataillé pendant des siècles, et vous restez là pendant 10, 15, 20 générations. Enfin, c'est extraordinaire.
On est des coriaces. Je pense qu'il y a quelque chose. on est attaché à notre terre et personne ne nous en fait partir.
Ouais, c'est une belle histoire. Alors, vous êtes où en Alsace exactement? Donc, vous dites Aiguisheim?
Aiguisheim, ouais, exactement, là, précisément. On est au sud de Colmar, à quelques kilomètres, dans cette partie centrale de l'Alsace, la partie, une des plus réputées. L'Alsace s'étend sur 120 km et là, on est vraiment au cœur de la région alsacienne, dans le fameux microclimat colmarien et dans le berceau du vignoble alsacien. Aiguisheim est le premier endroit où les Romains ont planté la vigne au 3e siècle.
Ah oui, vous étiez sur place déjà à l'époque, votre famille, là, depuis 14 générations,
On a attendu un peu.
Un certain Julius. Combien d'hectares aujourd'hui?
Eh bien, 17 hectares en propriété.
Ah, c'est bien.
Et un tout petit peu d'achat également à côté.
Et vous arrivez à vous agrandir un peu parce qu'en Alsace, j'ai l'impression que le taux de transaction, c'est zéro.
C'est proche de zéro. Maintenant, les choses changent. Il y a des changements de génération. Il y a quand même des choses qui bougent dans le foncier actuellement en Alsace.
On peut trouver des hectares de vignes à acheter en Alsace?
Peut-être pas des hectares. On parle d'art. On reste très modeste. C'est des transactions de 15 arts, 20 arts, 30 arts, 50 arts. Ouais. Donc, ça reste des petites parcelles. C'est un parcellaire très morcelé, à l'image de la Bourgogne. Mmh. Un vignoble familial, une côte, comme la Bourgogne, et hautement qualitatif.
Et il y a une bonne ambiance chez les vignerons alsaciens?
Mais écoutez, comme chez tous les vignerons, le vin est dans l'ambiance
tout,
est bonne.
Il y a quelques régions sur lesquelles ils sont forcément un peu moins drôles que vous quand même. Hein.
Alors on a un esprit de clocher, mais je crois que notre région serre les coudes, on se serre les coudes, on a des objectifs communs, on sait où on veut aller et ça bouge dans le bon sens.
Il faut dire qu'aussi il y a un mot sur l'accueil en Alsace qui est formidable, parce que beaucoup de domaines vendent beaucoup en direct, du coup ils sont ouverts très souvent. C'est souvent la maison est attenante, la maison familiale est attenante au chai.
On peut dormir chez le vigneron dans sa chambre, tout ça.
On est dans les villages, toujours des villages, rarement des villes, mais il y a quelques vignerons à Colmar même, je pense à Chofit par exemple. Donc l'accueil est formidable, très chaleureux. Moi j'encourage les gens d'aller visiter. D'abord la région est belle, on y mange très bien, on boit évidemment très bien.
Ils sont très sympas.
Et ils sont accueillants. Voilà.
D'entendre, il y a un drôle d'accent. Non mais c'est. Non, je plaisante.
Ah ben, il faut comprendre l'alsacien.
Oui, c'est ça.
Il faut emmener votre dictionnaire avant de venir.
Fabien, vous qui avez un doctorat en traduction alsacienne.
Alors justement, l'Alsace, c'est une mosaïque de terroirs. Vous avez 80 parcelles. Est-ce que vous les vinifiez séparément ou est-ce que vous les assemblez? Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. On a une politique en Alsace de vinification parcellaire. On a nos 51 grands crus qui ont été délimités il y a une bonne trentaine d'années. Et actuellement, on travaille à l'élaboration des premiers crus et plus tard des villages. Donc, on va sur un modèle pyramidal type bourguignon avec cette échelle de lecture de village, premier cru, grand cru et d'appellation de socle d'Alsace, d'AOC Alsace, qui est le socle de notre appellation. On n'oublie pas le crément, bien entendu.
Ah oui, le crément, tiens, parlons-en. Ça pétille à fond chez vous, hein?
Eh bien, le crément, oui, est très important pour l'Alsace, pour notre domaine un peu moins, parce qu'on se concentre essentiellement sur les Riesling, Pinot Noir, Pinot Gris et Pinot Blanc.
Ouais. David Cobold, les bulles alsaciennes, vous les aimez?
Ça dépend lesquelles. Hein. je déteste généraliser sur une appellation, ça n'a aucun sens. Mais je crois que ça représente 25% de la vinification de l'Alsace.
C'est énorme.
Exactement.
Ouais. Il y a 10 ans, c'était combien?
Alors, l'appellation est relativement jeune, puisque l'AOC date de 1976.
Oui.
Et effectivement, on oscille entre 25 et 30% de la production alsacienne.
C'est important.
Avec de très, très belles réussites. Mmh. Des pinots blancs, des chardonnays qui vont un peu chatouiller les champagnes.
Oui, le chardonnay est autorisé pour le crément, or qu'il ne l'est pas pour les vins tranquilles.
Exactement. Mmh.
Fabien ?
Alors, l'Alsace, c'est vraiment un des terroirs où il y a le plus de conversions en bio, en biodynamie, etc. Donc, vous êtes certifié en biodynamie depuis 2016. Alors, quelle est la certification et comment ça se traduit au jour le jour dans votre travail ?
Alors, on a commencé tout d'abord par une conversion en bio, effectivement, en 2011. Et notre certification en biodynamie est Déméter. Effectivement, au jour le jour, je dirais que c'est quand même un travail quotidien. Un stress un peu supplémentaire, un suivi particulier, une attention particulière. Parce que la biodynamie, avant tout, c'est une compréhension. C'est pas juste appliquer des méthodes, mais c'est vraiment essayer de se connecter et de favoriser au maximum l'enracinement profond des vignes. Quand on parle de terroir, eh bien, il faut que cette vigne elle aille puiser profondément son expression, son terroir, pour que vraiment le sol s'exprime au maximum.
Ouais. Vous êtes quand même stressé de temps en temps, parce que l'Alsace, c'est quand même un climat facile. Hein.
Ben justement, au contraire, on est sur un climat...
Bon, c'est vrai qu'il fait très chaud chez vous l'été.
C'est chaud l'été, on
c'est
est
continental,
sur
un
climat et très froid l'hiver.
Un climat semi-continental. Donc on a la chance d'avoir cette barrière vosgienne qui fait de Colmar la seconde ville la plus sèche de France, après Perpignan. Donc, alors, cette année, un peu moins. Mais on a 550 mm de pluie à l'année, ce qui nous permet vraiment de limiter les passages, les sulfatages et d'avoir des pressions de maladie en général très faibles.
Donc le bio est acceptable, on va dire, avec des telles conditions naturelles, quoi.
Le bio en Alsace, c'est quasiment, enfin, c'est plus de 30% des surfaces et les conversions continuent à se faire. Ouais. Je vois chaque voisin à Iggisheim, par exemple.
Le client est sensible ? C'est lui qui vous le demande ou c'est vous qui le faites parce que par choix perso ?
Alors, je crois que c'est les deux. Il y a une conviction personnelle avant tout. Ce n'est pas juste un effet du marché. On fait les vins qu'on a envie de faire. Oui. Et ça, c'est aussi un grand luxe.
Enfin, vous, d'ailleurs, vous êtes en couple. Là, vous travaillez à deux dans le domaine, non ?
Exactement. Je travaille avec mon épouse Valérie. Ouais.
Allez, on l'embrasse. Ah, oui. C'est important, les deux. Fabien, je joue le rôle d'Hélène Pie aujourd'hui, David.
Oui, donc il y a aussi en Alsace beaucoup de vins de cépage. Est-ce qu'on peut faire des vins de cépage et des vins de lieu, des vins de terroir ?
C'est absolument compatible.
C'est pas antinomique. Hein.
Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec David. Il y a des zones qui sont des vrais terroirs. En Bourgogne, vous avez une appellation de Bourgogne ordinaire et vous avez à quelques centaines de mètres ou quelquefois quelques kilomètres.
Le Bourgogne qui est un vin de cépage aussi. Je le souligne.
Qui était un pinot noir.
Monocépage.
Monocépage. Donc non, c'est tout à fait compatible. Et je crois que l'Alsace doit redécouvrir ses très grands terroirs et peut-être marquer plus la différence entre un vin simple de cépage et les très grands terroirs.
Alors dans votre gamme, qu'est-ce qu'on trouve ?
Eh bien, on va trouver l'ensemble des cépages alsaciens.
D'accord.
On va trouver nos deux grands crus d'Eggisheim. L'Eichberg, la colline des chênes.
Et Eichberg. Pour une fois, il y a un nom qui est prononçable à peu près. Et le deuxième ?
Le Pfirsichberg.
Ah, c'est plus compliqué. Donc, ça faut avoir pris l'apéro avant. Quoi.
Alors, Pfirsichberg, c'est la colline des pêchers, des pêches de vignes. Ce sont de très très beaux coteaux calcaires orientés au sud et des terroirs qui remontent au 12e au 13e siècle.
Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme gastronomie avec ces vins d'exception ?
Alors bien sûr, il y a notre cuisine alsacienne qui est une magnifique synthèse.
Il n'y a pas de la choucroute chez vous. Hein.
Non, heureusement, il y a plein d'autres choses à découvrir.
Vous avez Bekhof.
Le Bekhof, la matelote de Lille, on a une région d'une richesse absolue.
Absolue. Hein.
Après Paris, c'est la région de France où on a le plus d'étoiles Michelin.
Étoilées, quoi. Ouais. Ah, mais c'est vrai que c'est excellent. Quoi.
Et un renouvellement aussi. Beaucoup de jeunes chefs qui reviennent, qui ont bourlingué partout dans le monde et qui viennent avec leur fougue, leur fantaisie, renouveler cette gastronomie alsacienne.
Et votre cépage favori, c'est lequel ? Compliqué dans une famille de choisir l'enfant, le fils ou la grand-mère.
Non, je vais vous en donner un blanc et un rouge.
Oui.
Alors en rouge, ce serait le pinot noir, puisque
oui,
c'est le seul.
Oui, là, ça c'est un peu bizarre. Rouge alsacien. C'est limite faire les cartons jaunes. Et pour le blanc, c'est plus
blanc,
compliqué.
Alors bon, le grand blanc, c'est le Riesling.
Le Riesling.
Mais le débat pourrait durer longtemps.
David Kobol, vous aimez les Riesling.
Moi, je suis très, très fan de Riesling et aussi des pinot noirs. Il faut souligner quand même l'extraordinaire progrès fait en vinification et en sélection de plants du pinot noir en Alsace. Moi, j'ai fait un voyage récemment qui était consacré à ça. J'étais bluffé par la qualité des pinots noirs que j'ai goûtés.
Est-ce
Or
que
avant, c'était traité. Oui. Et je pense que ça, c'est parce que le sourcing est maintenant en Bourgogne, qui n'ont pas les mêmes clones que le champagne. À l'origine, les pinots noirs en Alsace, si je m'abuse, étaient souvent pris en champagne. Or, le but en champagne, ce n'est pas de faire un vin rouge,
Absolument.
C'est de faire des bulles.
Oui,
donc, ce n'est pas la même productivité, ce n'est pas la même nature du matériel végétal. Aussi, il faut rajouter le fait que beaucoup d'Alsaciens vont faire des études en Bourgogne.
Ouais, donc j'apprenne aussi à maîtriser.
Donc il y a des liens, d'ailleurs, il y a Trappé qui est sur les deux.
Ouais. Et le réchauffement climatique, ça vous a aidé pour élaborer du rouge parce que...
Alors je pense que comme David le dit justement, bien sûr le réchauffement nous affecte, comme l'ensemble des vignobles européens et mondiaux.
C'est bien pour le rouge, non ?
C'est mieux pour le pinot noir, mais je crois effectivement qu'il y a un grand travail, une meilleure maîtrise, une plantation de clones ou de sélection massale qui viennent directement de Bourgogne, une meilleure compréhension de la la macération, de l'élevage. J'ai fait moi-même mes études en Bourgogne. Et effectivement, la Bourgogne, c'est que 2 heures de route de l'Alsace. Et il y a cette proximité familiale, je pense, qui est très importante entre les deux vignobles. Et cette approche du terroir, qui est quand même magique en Bourgogne et qui parle énormément à l'Alsace, à tous ces vignerons alsaciens qui revisitent la région et qui retranscrivent leur terroir.
Et le Riesling, donc votre Riesling, est-ce qu'il y a un potentiel de garde ou pas? Parce que parfois, les gens boivent très jeunes, peut-être trop jeunes.
Alors, j'ai une petite anecdote à ce sujet. On a eu l'occasion de boire un Riesling 1921.
1921 voilà. Mais il faut nous inviter ce jour-là. Tous les auditeurs d'Invino Sud Radio sont disponibles.
On en rouvrira quand vous viendrez.
Il est comment, le 21?
Eh bien, écoutez, à l'aveugle, je serais parti sur un 71.
Donc, il est comment, le 71?
Le 71 est exceptionnel, mais on ne donnait absolument pas cet âge à ce vin. Et ça montre la grande capacité de conservation, de garde des grands vins d'Alsace. Alors, il faut qu'il soit bien né. On parle là de terroir et moins de vin de cépage, comme on l'a évoqué tout à l'heure.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de gastronomie avec un 1921?
Ah bah écoutez, là, je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'accompagnement.
Oui, c'est ça, c'est tout seul.
On est recueilli et on est...
Qui a dit l'expression « c'est à genoux et chapeau bas » je crois.
Fabien ?
Oui, à la cave, vous dites que vous avez un minimum d'intervention, mais vous faites quand même quelque chose.
Alors, comment ça se passe ? Non, il ne fait rien, c'est le Club Med. C'est...
À quoi vous servez, en fait ?
Non, il ne fait rien dans la vie, rien à la cave.
Voilà, c'est Valérie qui bosse. La simplicité, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. Oui. Ou ne rien faire, c'est ce qu'il y a de plus difficile, que ce soit dans les vignes ou à la cave. Parce qu'on est toujours un peu... on souhaite intervenir. Et c'est justement, c'est simplement déguster, voir ce qui se passe, soutirer. Voilà, des opérations qui sont assez classiques, mais sans intrants, encore une fois. On surveille, on regarde de loin.
Qu'est-ce que vous avez contre les intrants? Alors, le raisin, c'est un intrant, non?
Le raisin est un intrant, mais le raisin est la base de la recette. Ensuite, il y a tous les ingrédients.
Non, mais vous cherchez, David.
Il n'y a pas de souci.
Oui, il est anglais, hein, n'oubliez pas. On n'a jamais oublié que David Cobob, même s'il est sympa, est anglais. Pour terminer, 14e génération, est-ce que la 15e est prête?
Ah bah écoutez, ils sont là. On va surtout pas leur mettre de... Ils ont 7 ans, tous les deux. C'est deux frères qui ont 7 ans, donc on va leur laisser un peu de marge, un peu de répit.
Ah, mais il faut qu'ils aient décidé à 8 ans, non? Parce que quand même, écoutez, 14 générations, non?
Ils viennent dans les vignes, ils goûtent le raisin, ils descendent à la cave boire le jus de raisin. Je crois qu'ils sont sur la bonne piste et surtout, on va pas leur mettre trop de pression parce qu'il faut tomber amoureux du métier. Il faut pas que ce soit contraint et forcé et il faut qu'ils aient cette liberté, cette envie et voilà, il faut qu'ils découvrent ça d'eux-mêmes, quelque part.
Leur de prénom, c'est
Maxime et Victor.
On vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. Merci Christian et bravo pour ce beau parcours et la qualité de vos vins. Merci également à Fabien Humbert et David Cobold. On se retrouve dans un instant en bar à vin du caviste Nicolas pour le Vino Quiz et gagner des coffrets Bandit de Loire et Divine.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. En attendant, on retrouve David Cobold pour le Vino Quiz du week-end.
Donc, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur va gagner de très, très beaux cadeaux avec le coffret de 3 bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret Divine et le livre Un tourisme spirituel en France. Donc, la question, je vous le rappelle, quel est le sujet ou quel fut le sujet de la dernière enquête lancée par Sophie Pallas, directrice générale de l'Union des œnologues de France et ses collaborateurs? Option A, les troubles de l'odorat et du goût causés par la Covid-19 chez les œnologues. Réponse B, la consommation de champagne en Belgique. Pourquoi la Belgique?
Mais pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Mais il a raison, pourquoi pas? Je pense qu'ils en consomment pas mal, les Belges, non?
Ah oui, de toute façon, ils consomment tout.
Oui.
C'est un peu comme les Bretons. Allez, on embrasse les Belges et les Bretons.
Alors, réponse C, la consommation du vin sans alcool chez les Français entre 20 et 30 ans.
Mais uniquement. Pas, David.
Uniquement. Ouais. Donc, pour répondre et gagner un coffret de ces 3 bouteilles, etc., et le livre, rendez-vous toute la semaine durant sur le site invinoradio.tv et cherchez la rubrique Vino Quiz. Cochez A ou B ou C. Et la gagnante sera tirée au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, David Cobold. Invino Sud Radio accueille maintenant une nouvelle invitée par téléphone, Anne Vermerch. Bonjour, Anne.
Bonjour.
Alors, racontez-nous cette belle histoire de vin qui débute en 1975 avec votre papa, Dirk, chauffeur de taxi qui rêvait de devenir champion automobile.
C'est ça. Donc,
mais très loin du vin pour l'instant. Allez-y, Anne.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, mon papa était toujours un grand passionné. Et un jour, il est devenu chauffeur de taxi. Et il s'est dit, c'est chouette la voiture, tout ça, la vitesse. Ben, je deviens pilote automobile. Et de là, il a tout fait pour le devenir. Et alors, il n'a pas été champion du monde, mais il a été champion de rallye belge en 82.
Très bien. Ouais.
Il a fait le Paris-Dakar, il est parti un peu plus loin, il a fait les 1000 lacs en Finlande, il a fait le Daytona, l'Oval. Bon, il a pas mal bougé. Voilà. Après, il a suite à un accident, donc il a arrêté ça parce que bon, il avait un certain âge déjà pour la course et il se dit bon, je vais m'assagir. Donc, il a commencé à vendre des voitures, donc des Lancia et des Maserati, pendant une 12-13 ans. Et puis, il venait en vacances dans le sud de la France depuis quelques années et il est tombé amoureux en fait de cette région là, de la vallée du Rhône. Et il est tombé sur un vieux MAS.
Vous êtes basé où exactement ? Il est où le MAS ?
Alors, le MAS à l'époque, c'est à Tulette.
Tulette,
donc,
d'accord.
Un petit village à côté de Suze-la-Rousse, donc dans la Drôme provençale.
Oh, il a les dentelles de Montmirail, pas très loin dans le coin.
C'est ça, je les vois devant moi là.
Oh, vous avez de la chance. Hein.
Et voilà, et de là, il y avait un peu de vigne avec ce vieux MAS, et il a dit, pourquoi pas, je deviens vigneron, voilà.
Et donc, il était totalement autodidacte, il a commencé par étudier la plante, et puis
Et puis, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, il faut quand même se lancer sérieusement, et puis il faut des diplômes, en fait, pour ça, mais lui, il n'avait plus trop envie d'aller à l'école, donc moi, j'avais 18 ans à l'époque, et il m'a demandé, si moi ça ne me disait pas de venir dans l'aventure avec lui, donc je suis allée au lycée viticole à Orange
pour apprendre sérieusement le vin en vrai quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça, et puis je suis rentrée avec lui dans la société, de là de 1 hectare c'est devenu 5, 10, maintenant on est sur 20 hectares.
Ouais. Et bosser avec son papa, c'est pas trop compliqué parce qu'il a l'air d'avoir un gros caractère, le papa, quand même. Hein.
Ben ça, c'est comme tout, hein. Je pense que ça a beaucoup d'avantages, mais c'est vrai que des fois, ça a un peu des inconvénients. On se dit tout franchement, et c'est vrai que des fois, ben c'est bien, et des fois, ça clash un peu, mais en général, ça va quand même. On est une bonne équipe.
Bon, ça va, David Kebol, qui est une bonne équipe.
Est-ce que votre papa se donne dans les courses de tracteur maintenant?
Non, alors ça, j'ai la chance, c'est mon mari qui fait ça.
Donc, tracteur, votre mari?
Et oui, il est avec nous dans le domaine et lui il s'occupe des vignes.
Il joue au rugby, votre mari, c'est ça ?
Et il joue au rugby et c'est un musicien.
Bien. Bon, il est formidable, votre mari, là.
Que des gens bien, là.
Mais oui.
C'est ça.
Bon, il joue au rugby, il jouait quel poste et où ?
Ailier, et là, maintenant il est avec les vieux crampons là, où je sais pas comment
ouais,
ça
s'appelle. Oui, vraiment
là. Les folk flow.
Puis un jour il sera devant sa télé, quoi, Fabien.
voilà. Il est aussi un musicien de hard rock et apparemment il y a des concerts. Est-ce qu'au mois de septembre, octobre, là, il va y avoir des concerts dans notre domaine ?
Alors, non, ça, c'est fini. On en a fait cet été, là. C'était très sympa. Mais là, malheureusement, c'est les vendanges, maintenant, sur lesquelles on va se focaliser un petit peu.
Ouais, c'est pas du hard rock, c'est du hard vendange. Fabien.
Sur vos 20 hectares, vous avez quand même pas mal de cuvées. Et quels sont les cépages que vous utilisez ?
Alors, nous, on travaille sur les cépages rois de la vallée du Rhône, donc Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre en rouge, puis Viognier, Clairette, Roussanne en blanc. Et puis après, on fait des sélections de vins de cépages aussi pour proposer des vins plus d'amis, on va dire, des vins de soif. Donc, on a des Chardonnays, des Sauvignons, des Cabernets, des Merlots, voilà, des vins de cépages.
Et vous avez une nouvelle gamme, la Graffiti, donc avec des étiquettes très graphiques.
Oui,
comment est-ce qu'elle est élaborée ?
Alors ça, c'est un ami qui est artiste, qui a tagué un mur, en fait, avec un autre artiste. Donc c'est Fred Michiels et Oxy. Et donc ils ont tagué un mur, et de ce mur, on a fait une étiquette. Et maintenant, elle est distribuée dans une chaîne de grande distribution en Flandre, donc de là où je viens. C'est une exclusivité.
Il était chauffeur de taxi où, le papa, d'ailleurs ?
À Anvers.
À Anvers, très bien.
D'Anvers.
Très bien. Il a piqué 2-3 diamants et pof, il a acheté un vignoble.
Alors, ouais, il a beaucoup travaillé, surtout.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est tout le mérite. Quoi. Alors, dites tout, l'avenir donc, du vignoble, c'est quoi ? Vous voulez continuer à grandir, à acheter quelques hectares de vignes, à passer vous vendez combien de bouteilles par an ? 100 000 ?
Cette année, normalement, on va faire 600 000 bouteilles.
600 000 bouteilles ? Ah oui, c'est beaucoup, oui. 600 000 bouteilles.
Oui, ça commence.
Très bien.
Et j'ai vu, vous avez aussi du gin, du vermouth. Est-ce que les spiritueux, c'est un axe d'avenir aussi ?
Alors, oui, ça nous plaît beaucoup. Alors, le gin, c'est devenu... nous, on aime bien le gin tonique. Et à force de l'acheter, on s'est dit, bah, pourquoi on n'en fait pas un, nous c'est...
Si un jour, vous aimez les jus de betterave, dans ces cas-là, vous pourrez planter chez vous. Quoi. C'est... Ouais. Et il est comment, votre gin, alors?
Alors, il est à l'herbe de Provence. Donc, il est très épicé, avec des touches de romarin et de thym. Et très, ah, très frais.
Ça m'intéresse. Moi, je suis très fan de gin aussi.
Oui, ah, oui. C'est anglais, quoi. C'est... Ouais. Mais bah, vous mettez d'autres choses, quand même, en Angleterre.
Oui, oui, le tonique,
oui. Oui, un petit peu tonique,
parfois
oui.
Autre chose, mais c'est bien avec le vermouth aussi. Le vermouth est très intéressant.
Oui, tout à fait, ça fait des cocktails très intéressants. Et le vermouth, du coup, c'est un vin de chez nous qu'on a bougé en tonneau et qui a été élaboré par un artisan de vermouth, je ne sais pas comment on dit, en Belgique.
Et alors, comment vous faites pour vendre tout ça? Parce que les Flamands sont quand même d'abord des redoutables commerçants, non?
Oui, bah après, nous, ça fait 20 ans maintenant, on s'est créé notre marque, notre image, et puis petit à petit, on s'agrandit avec notre bonne image. Les gens, ils savent que ce qu'on fait, c'est bon, et donc petit à petit, voilà.
Et vous vendez beaucoup en Belgique, aux Pays-Bas?
Oui, l'Europe du Nord, donc Belgique, Pays-Bas, Allemagne, et puis un peu vers l'Asie aussi. On a des clients en Thaïlande, en Chine, et puis de l'autre côté, Canada, Amérique, États-Unis, pardon, et Mexique.
Très bien.
Je pense que dans le succès du domaine, il y a aussi le packaging, il y a aussi les noms. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le nom des cuvées, donc les R, S et GT? Bon, GT, ça fait penser bien sûr à l'automobile.
Oui. Ben, c'est quand on est arrivé, donc il y a 20 ans, pour faire du vin, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de domaines, oui. des générations de vignerons. Et comme nous, ben, on n'a pas ça. Nous, c'est vrai qu'on est parti de zéro. Ben, on s'est inspiré de l'histoire de mon père, donc avec la course automobile, le damier. Et en effet, les voitures GT, les voitures RS, donc c'est devenu nos cuvées. Donc GT, c'est de Gran Turismo, donc c'est les meilleurs, on va dire, les plus chics. Donc c'est les grands terroirs. Là, on travaille vraiment sur des cuvées avec une identité forte sur le cépage. Donc, par exemple, on a le GTS, donc c'est Grand Terroir Syrah, qui est très typé. Et après, les RS, c'est nos récoltes sélectionnées. Donc, c'est plus des cœurs de gamme. Donc, c'est nos Côtes-du-Rhône qui sont plus pour tous les jours.
Oui, mais alors, c'est pas tellement dans l'air du temps, la bagnole, en ce moment-là. Vous allez changer de nom? Vous allez tout mettre avec des noms de vélo ou
Non, il y a la voiture électrique.
Il y a la voiture électrique, oui. C'est bonne remarque, c'est vrai. Parce qu'il y a 20 ans, c'était tendance, maintenant il y a du changement. Fabienne, dernière question peut-être?
Oui, alors combien ça coûte? Parce que oui, RS et GT, bon, une fourchette de prix. Hein.
Alors, on a toute une gamme. Hein. On part de 6 euros pour les entrées de gamme. Et puis, on part à les GTS, par exemple, dont je vous parlais. Le Syrah, c'est 17 euros la bouteille.
D'accord. Et en couleur, vous avez quoi? Vous avez que du rouge?
Non, blanc, rosé, rouge. On a même de l'orange, si jamais.
Alors l'orange, dites tout, qu'est-ce que c'est exactement là? Parce que c'est très à la mode, ça.
Oui, tout à fait. Alors un vin orange, c'est des raisins blancs qu'on fait macérer. Donc on garde un contact plus ou moins prolongé avec la peau. Hein, parce que normalement, un blanc, on le presse et c'est le jus qui devient du vin blanc. Ben là, c'est comme un procédé comme le vin rouge, en fait, mais sur des raisins blancs.
Voilà. Blanc. Donc, et les consommateurs, ouais. Quoi, ils ont, c'est les gens?
C'est des gens qui sont déjà assez avertis sur le vin. Oui, parce que c'est quand même assez particulier. Ça donne pas mal d'amertume et on n'a pas l'habitude d'avoir ça sur des blancs. C'est des vins assez droits qu'il faut vraiment apprécier sur des petites assiettes de fromage, de charcuterie. C'est assez intéressant. Le nôtre est très souvent aussi fait de façon naturelle, sans ajout d'intrants, sans filtration. Donc il n'y a que du raisin et c'est très intéressant.
David Cobol, un avis sur le vin orange?
Alors, d'abord, ils ne sont pas toujours orange. Ça dépend d'une petite oxydation.
Oui, de la macération. Oui.
C'est surtout des vins de macération. Et c'est intéressant, c'est une très vieille technique. Moi, j'ai vu ça dans des installations anciennes en Géorgie, où on vinifie dans des cuivres. Ce sont des vaisseaux en terre, des grandes jarres qui sont enterrées à température constante, parce que c'est la température du sol, et on met tout dedans. Donc, que ce soit du rouge ou du blanc, donc on met les tiges, on met la peau, on met les pépins, et du coup, on attend que ça se passe. Alors, parfois, ça se passe bien, parfois un peu moins bien. et on ne sait que quand on ouvre le paquet cadeau... les vins ne sont pas oranges dans ce cas-là, ils sont macérés, parce qu'ils sont à l'abri complètement de l'air et de la lumière, mais ils sont tanniques, tanniques et amers. Et alors ça donne effectivement un effet de surprise quand on est habitué au blanc classique, mais c'est très intéressant gastronomiquement.
Anne, pour terminer, vous avez un site internet peut-être pour prendre enseignement sur vos voitures, vos vins, votre famille,
oui,
tout ça?
Oui, tout à fait. Alors vous tapez leplan.com .wine, donc L-E-P-L-A-N, .wine en anglais, W-I-N-E.
Très bien, merci beaucoup et puis on prendra vos nouvelles régulièrement. Merci Fabien Humbert, merci également à Christian Beyer, vous nous avez fait rêver au son de l'Alsace, David Cobol et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil également à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Retrouvez également les coups de cœur de Bernard Burchi dans notre rubrique Un billet d'humeur sur le site invinoradio.tv. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.